Voilà, bonsoir. Donc ces réunions auraient dû se dérouler il y a un an déjà. Ça avait été annulé pour cause de Covid et ensuite reporté au mois de novembre, à nouveau annulé. Et donc on se retrouve un an plus tard pour toujours ce même thème qui est celui de l'Église et j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, fondamentalement, je pense que je n'aurais pas dit autre chose il y a un an. Mais quand même, j'ai pas mal réfléchi depuis un an. Et je pense que le Seigneur m'a montré certaines choses, aussi avec un peu la situation de l'Église. Ça m'a fait réfléchir sur certains aspects. Et donc voilà, je pense que ce que je vais dire pendant ces deux jours, trois jours, c'est un peu le fruit de cette réflexion depuis une année. L'Église, ce n'est rien d'autre un projet spirituel de Dieu. L'Église, c'est un projet de Dieu, pas d'abord pour les hommes, mais d'abord pour lui. Et ce projet, il va le faire aboutir par Christ. Dès les premiers versets dans la Genèse, on trouve des indices de la présence de l'Église. Lorsque l'homme a péché, la relation particulière qui existait entre lui et Dieu s'est perdue. Dieu, à partir de là, va chercher à reconnecter avec les hommes. Et la question qu'il lance à Adam dans le jardin, la question c'était quoi? Où es-tu? Cette question va résonner à de multiples reprises dans toute la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, et c'est d'une certaine manière le cri que Dieu lance à tous les hommes et tous les jours. Où es-tu? Par les différentes alliances dans l'Ancien Testament, avec les patriarches, Dieu va former un peuple qui sera son peuple. Le peuple de Dieu. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. On peut dire que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, c'était l'Ecclésia, l'Église de Dieu. Dans sa plus simple expression, n'est-ce pas? La présence de Dieu au milieu de son peuple dans une relation d'amour. On retrouve ensuite préfiguré et prophétisé sous différentes formes dans l'Ancien Testament et bien sûr aussi dans le livre des Actes. Donc on retrouve cette Église et on peut suivre l'Église de Christ, sa naissance, ses premiers pas et le début de son développement. J'aimerais juste répéter ce que j'ai dit. « Donc on retrouve préfiguré et prophétisé l'Église de Christ sous différentes formes dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, dans le livre des Actes, on peut suivre l'Église de Christ, sa naissance, ses premiers pas et le début de son développement. Et j'aimerais porter votre attention sur les termes que j'ai utilisés. Je n'ai pas dit « nous pouvons suivre la fondation de l'Église de Christ, sa construction et le début de son extension ». J'ai bien dit la naissance, les premiers pas et son développement. Ce n'est pas que la deuxième façon de dire est fausse, pas du tout. Mais c'est pour que vous compreniez quel est mon état d'esprit lorsque je parle de l'Église. Et les deux sont bibliques. Hein. Jésus a dit « je bâtirai mon Église ». Mais on sait aussi que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de spirituel. Et donc, quelque chose de vivant. Et c'est pour ça que j'utilise ces termes, la naissance de l'Église, les premiers pas et son développement. Un organisme, c'est vivant et ça fonctionne plus ou moins tout seul. Je dis plus ou moins parce que ce n'est pas vrai que ça fonctionne tout seul absolument. L'autre version, c'est l'institution. N'est-ce pas ? Je bâtis, je construis, je m'étends. L'institution, c'est un ensemble inerte de règles, de pratiques complexes qui organisent la vie des personnes et des choses. Et voilà, il faut quelque part pousser pour que ça fonctionne. Il faut organiser les choses de façon très précise pour que ça marche. Voilà. Mais bon, Paul, Pierre, Jésus parlent de l'édifice, du corps, n'est-ce pas ? Et, enfin, justement, le corps, c'est l'autre versant, mais de l'édifice. Et je serai, moi, plus sur la version corps de Christ et la croissance de l'Église. Mais d'une façon ou d'une autre, lorsque la terminologie du bâtiment est utilisée, c'est de toute façon avec une pensée spirituelle, bien sûr. Mais et je prends cette direction parce que, et Dieu le sait mieux que moi, les hommes ont un amour immodéré pour le packaging, n'est-ce pas ? Packaging, c'est un mot anglais qui signifie l'emballage. Et c'est le packaging qui vend le produit qui est à l'intérieur. Tous les commerçants savent ça. Et c'est ce que Dieu dit à Samuel, n'est-ce pas ? Lorsqu'il s'agit de choisir un roi, et qu'il y a Saül, qui dit qu'il était beau, qu'il était grand, et Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, concernant l'Église, c'est justement le cœur des choses qui doit être jugé, et l'emballage n'a que peu d'importance aux yeux de Dieu. Et c'est certainement cette recherche d'une forme ou d'un modèle plus ou moins prestigieux qui a été recherché au travers des siècles, c'est cette recherche d'un modèle ou d'une forme qui a contribué finalement à rendre invisible l'Église locale de Christ, n'est-ce pas, au détriment d'églises qui s'élevaient dans les airs pour montrer leur grandeur et la grandeur des nations qui les construisaient. Et ce sont donc les églises des hommes. Quand vous attaquez au sujet de l'Église, au départ, vous dites « bon, ça va, je gère ». Et quand vous commencez à travailler dessus, vous ne gérez plus rien du tout parce que ça part dans tous les sens. Et donc, et merci Seigneur, l'Église est quelque chose de complexe et simple en même temps. Voilà. Et donc, je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus clair possible. Et si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Mais j'aimerais que ce soit compréhensible pour tous et je me suis appliqué à ça. Donc aujourd'hui, je vais évoquer ce que j'appelle les prémices de l'Église, dans la Genèse notamment. Et donc, dans ces prémices, il y a un principe que je décline de cette façon-là. Le principe, c'est un lieu, une rencontre et une union. Et dimanche, on fera, on posera la question pourquoi l'Église de Christ. Et le matin et l'après-midi, on dira comment l'Église locale. Mais comment? Comment ce sera, il ne s'agira pas de décliner un modèle à suivre, parce que ça, vous en avez plein, et vous n'avez pas besoin de moi pour un modèle d'église. Et je sais que les évangéliques, surtout ces dernières 15 ans, 15, 20 ans, sont des adeptes de modèles de tout genre, de stratégies et autres. Et donc, les modèles d'organisation d'églises locales, il y en a plein. Il y a aussi des modèles d'implantation d'églises. Hein, vous savez qu'on peut planter une église. Alors, pour les arboriculteurs, ils savent planter les arbres. Les vignerons savent planter la vigne. Les maraîchers savent planter... Bon, on plante ce qu'on peut. Mais il semblerait qu'on puisse aussi planter des églises, et même que c'est très efficace. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien vous allez sur Internet et vous tapez comment implanter une église. Mais je vous garantis, faites-le, hein, faites l'expérience. Comment implanter une église? Et les réponses, c'est... implantation d'église en 7 étapes, 6 clés pour l'implantation d'église, implantation d'église, une stratégie efficace, etc., 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 etc. N'est-ce pas? En fait, ça marche bien, ça. Pour vendre un bouquin ou pour vendre un concept, il faut toujours poser la question « comment ?» Parce que derrière le « comment », les gens ont l'impression qu'il y a un secret et que vous allez leur dévoiler. N'est-ce pas ? Comment vaincre ma timidité ? Voilà. Tous les timides vont acheter le bouquin parce qu'ils vont se dire « ça y est, j'ai trouvé ». Donc, comment implanter une église ? Allez sur Internet et vous saurez. Je ne pense pas que la parole de Dieu soit non plus un manuel de bonne pratique. La tentation, c'est de prendre la Bible et de dire, voilà, on va suivre tout ce qui est noté là, et c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Je ne pense pas que la Bible a été écrite pour cela. Il y a des incontournables concernant l'Église. C'est sûr, il y en a. Mais il n'y a pas une liste de choses à faire et ensuite on est tranquille. N'est-ce pas ? Il ne faut pas que l'Église soit un fardeau, dans le sens où elle soit un fardeau pour ceux qui y sont, ceux qui la gèrent, et ceux qui viennent. Et si c'est un fardeau, il doit être à peu près aussi léger que le joug de Christ, n'est-ce pas ? Prenez mon joug sur vous, car il est doux et léger. Donc il ne doit pas être difficile à porter. Voilà, donc ça c'était pour le préambule. En introduction, j'aimerais commencer avec une citation d'un homme qui s'appelle Arthur Katz, qui est un juif converti, qui était philosophe, qui est décédé il y a quelques années. Est-ce qu'il y aurait un verre d'eau quelque part ? Et donc je vais juste vous citer une partie de son livre « Holocauste, où était Dieu ?» Et il dit cela concernant justement l'Église, concernant la religion. « Pourquoi optons-nous pour le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme ou même quelques ersatz occultes plutôt que pour la connaissance de Dieu selon la vérité ? C'est parce que la connaissance de Dieu s'accompagne d'exigences. Connaître Dieu en vérité, c'est aussi connaître ses exigences en vérité, et cela vient contrecarrer les convenances personnelles des hommes. C'est là une des raisons profondes pour lesquelles nous fuyons la rencontre avec Dieu et préférons choisir nous-mêmes quelques divinités plus accommodantes. Il est même possible de perdre la communion avec Dieu, avec le Dieu vivant, si nous faisons passer nos convenances personnelles avant la vérité. Le christianisme contemporain en est justement la démonstration. Concernant le terme « Église », j'aimerais juste vous dire ce à quoi la Bible fait allusion quand le mot « Église » est utilisé. Le mot « Église » vient du grec « ecclesia », qui en réalité est un mot commun, c'est un nom commun, qui désigne toute forme de rassemblement religieux ou non religieux. Donc, quand vous vous rendez à la réunion de la confrérie des bouchers de France, vous vous rendez dans une église, en quelque sorte, parce que ça signifie ça, rassemblement de personnes. Concernant la réunion des enfants de Dieu, l'église, c'est la réunion des croyants que Dieu a appelés hors du monde. Hein, vous avez le préfixe « ek » qui signifie « hors d'eux » et « kaleo » qui veut dire « appelé ». Donc « appelé hors d'eux ». Dans la version de la Bible hébraïque, enfin de l'Ancien Testament, donc la version des Septante, je ne sais pas si vous connaissez les Septante, c'est une version grecque de l'Ancien Testament hébreu, qui a été écrite, je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas à l'époque de Jésus et l'apôtre Paul, tout le monde utilisait cette version. C'était la version courante, et l'apôtre Paul prêchait, parlait à partir de cette version, parce que c'était ce qui était courant à cette époque, à cette période. Donc, dans cette version, il est aussi question d'ecclésia. Le terme, donc l'ecclésia de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël. C'était la congrégation de Dieu ou l'assemblée d'Israël. Et le terme utilisé, c'était pareil, c'était ecclésia, qui vient de l'hébreu kahal. Voilà. Donc il y a, d'une certaine manière, une église de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais qui est différente de l'église du Nouveau Testament, puisque Jésus a dit, comme tu l'as dit, Joël, « Je bâtirai mon église ». N'est-ce pas ? Je ne bâtirai pas sur l'église de l'Ancien Testament, je bâtirai mon église. Il y a une première alliance, il y a une deuxième alliance, je bâtirai mon église, la mienne. Donc dans Matthieu 16, je le relis, Jésus proclame « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais j'aimerais qu'on lise juste la partie avant, qui est tout aussi importante que celle que tu avais relevée, Joël. Donc dans Matthieu 16, à partir donc du verset 13, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » N'est-ce pas? Le point que fait Jésus là est extrêmement important, en fait. Et doit pas, et ce qui vient après ne doit pas cacher cette partie-là. Jésus dit, « Après, je bâtirai mon Église. » Mais là, il lui dit, « C'est une révélation de Dieu que tu as reçu. » Et vous ne pouvez pas séparer la notion de révélation avec la notion d'Église. Vous devez garder ces deux choses-là toujours ensemble. Il n'y a pas d'Église sans révélation. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de chrétien sans révélation. Il n'y a pas de chrétien sans révélation. Donc révélation sera sans doute un mot-clé dans ces quelques séances. Dans les toutes premières décennies de son existence, l'Église de Christ et l'Église locale ne sont, pour ainsi dire, qu'une seule et même chose, qu'une seule et même entité. Quand Paul écrit à l'Église à Corinthe, il s'adresse à l'Église locale de Corinthe, pour laquelle il a une communication qui est ciblée. On a vu ça dans les études bibliques qu'on a faites, n'est-ce pas ? Il y a des questions qui sont posées, il y a des réponses qui sont données. Il y a donc une communication qui est ciblée pour ce groupe de chrétiens-là qui se réunit à Corinthe. Mais quand il écrit aux saints qui sont à Éphèse, il a un discours qui est plus général et qui s'adresse à l'ensemble des chrétiens. C'est un discours, justement, sur l'Église et qui concerne tous les chrétiens d'Éphèse et éventuellement peut-être d'autres. On considère que cette lettre était une lettre circulaire qui était... L'adresse était en blanc et on écrivait Éphèse ou Colosse ou, je ne sais pas, d'autres destinations, parce que ça concernait plus globalement des groupes plus larges de chrétiens. Mais dans un cas, comme dans l'autre, c'était l'Église de Christ. Et les chrétiens d'alors n'étaient pas encore confrontés au dilemme que nous connaissons aujourd'hui entre l'Église de Christ et les églises de la chrétienté, ce qui est aujourd'hui notre cas. Nous parlons de l'Église de Christ et ensuite nous parlons, on ne sait pas trop de quoi on parle en fait. Il y a multitude d'églises, partez de l'Église catholique à l'Église charismatique de Ouagadougou. Je veux dire, il y a, entre ces deux-là, il y a les orthodoxes, il y a... Bon, j'aurais dû faire la liste, mais il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Des variantes. Et chez les protestants, chez les évangéliques, c'est pareil. Au sein même de cette chrétienté, vous avez des tonnes de dénominations, des tonnes de couvertures à soie. Voilà. Pour ça, c'est mon bout de gras, ça, c'est à moi. Le baptême, les parler en langue. Voilà. Chacun a son truc qu'il chérit, son cheval de bataille, et la distinction dans l'Assemblée se fait à ce niveau-là. Est-ce que là, on sait où on va? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Mais si l'on s'en réfère à la parole de Dieu, il y a l'Église de Christ qui est sûre et certaine. C'est Christ qui est en train de s'en occuper. C'est Christ qui la protège. Le séjour, c'est quoi le séjour des morts ne prévaudra. Ouais. Donc il n'y a pas d'attaque qui pourra l'abattre parce que je suis là, parce que je m'en occupe, parce que je la chéris, parce que je l'aime, parce que je suis son défenseur. Et cette Église-là, elle est sûre et certaine, elle est fonctionnelle, elle est parfaite, elle marche du tonnerre et personne ne peut arrêter ça. C'est en route, c'est en marche. Et il y a les églises locales, et en gros, c'est tout. Église de Christ et les églises locales. Tout le reste, dans le regard de Dieu, ça n'existe pas. Tout ce que les hommes ont fabriqué, tout ce que les hommes ont aménagé, eh bien, Dieu ne le prend pas en considération. Et je dirais, heureusement parfois, que, n'est-ce pas, il y a des choses qui disparaissent aux yeux de Dieu, vous le savez, ça. Par exemple, je ne sais plus le verset, mais lorsque certains viendront le voir et disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades, chassé les démons en ton nom, toutes ces choses-là » Et le Seigneur, il va répondre quoi ? Et écartez-vous de moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites au nom de Dieu, il y a des églises qui sont créées au nom de Dieu, il y a des actions qui sont accomplies au nom de Dieu, que Dieu ne voit pas. Puisque il dit, je ne vous connais pas. Mais j'ai fait une église... À Trenheim, à Strasbourg, j'ai fait une église. Je ne te connais pas. C'est raide. Hein ? C'est raide, mais il y a des choses qui sont faites au nom de Dieu et qui ne sont pas marquées dans le ciel, qui ne sont pas dans la base de données du ciel. Ce n'est pas dans les ordinateurs. J'ai beau regarder, je ne le vois pas. Donc il y a l'Église universelle et il y a l'Église locale qui est représentative de l'Église universelle. Elle est une Église terrestre, mais elle n'est pas charnelle. Elle est une représentation de l'Église universelle. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle à plusieurs reprises du mystère de Christ, du mystère de l'Église, qui a été dissimulé durant le temps de la première alliance. Vous lisez ça dans Éphésiens 3, versets 4 et 5. Et dans Éphésiens 3, verset 9, Paul précise que ce mystère était caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose par Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Ce mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose par Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons l'indication, n'est-ce pas, que L'Église, c'est un projet de Dieu mis en œuvre par Jésus-Christ. Une conception de Dieu, et c'est Jésus qui le met en œuvre. Donc la question, mais pourquoi Dieu a-t-il voulu l'Église? On verra ça dimanche matin. Et comment devrait-elle se manifester? On le verra dimanche après-midi. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit un peu dans la Genèse ce que j'appelle donc les prémices de l'Église ou la silhouette diffuse de l'Église. Et donc, en fait, avant d'aller dans la Genèse, on va aller dans Éphésiens 5, et tout de suite après, on va aller dans la Genèse. Alors, 5, 29 à 32. C'est 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dans Genèse, donc là, ce dernier verset nous emmène justement dans Genèse, n'est-ce pas ? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Immédiatement, vous avez pensé à ce qui s'est dit dans le Jardin d'Éden, donc Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc l'apôtre Paul nous dit, tout de suite après avoir cité ce texte, ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Il y a donc une signification dans ce qui est en train de se passer dans le Jardin d'Éden. Voici L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le premier mariage du monde, c'est celui entre Adam et Ève. C'est l'histoire, n'est-ce pas, d'une noce qui est célébrée dans une atmosphère tout à fait différente des noces que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, il faut aller à la mairie, il faut créer une atmosphère de fête. Qui est-ce qui s'est marié? Moi, j'étais au mariage de... Ah oui, Ludovic. Et les gens font ça avec leur cœur, ils veulent faire plaisir à tous les invités, et on crée une ambiance qui nous correspond, parce qu'il faut que ce soit le plus beau jour de notre vie. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu pour la plupart, et dans le monde, alors, il y a des gens qui dépensent des sommes absolument inconsidérées pour faire de ce jour un jour absolument extraordinaire. Et 2 ans après, ils divorcent. Mais en réalité, il y avait là une atmosphère qu'il est impossible de recréer aujourd'hui. N'est-ce pas ? L'atmosphère du jardin d'Éden, c'était un monde, un environnement sans péché, où la chute n'avait pas encore accompli son œuvre. Et c'est dans ce lieu que Adam va rencontrer Ève. Il dort. Dieu lui ouvre le ventre, il prend une côte, il crée sa femme. Et quand il se réveille, Dieu lui présente son épouse. Et Adam, il dit, oh, t'en as pas une autre? Ben aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Il faut choisir, on va prendre un peu le temps. Mais non, cette femme, c'était celle que Dieu lui avait choisie. Et immédiatement, quand il l'a vue, il l'a aimée. Immédiatement, quand il l'a vue, il s'est épris d'elle. Il l'a reconnue comme étant son épouse. Et de la même façon, Dieu présente l'Église à Christ. Et Christ la reconnaît comme étant son épouse. Ce qui signifie que l'Église universelle existe parce qu'elle est le choix de Christ. Christ n'a pas dit « Ah non, j'en voudrais une autre ». Il dit « Oui, je prends cette Église que tu me donnes, je la prends et je la chérirai de tout mon cœur ». Si vous voulez avoir une idée forte de l'amour que Christ porte à son Église, il faut que vous lisiez le Cantique des Cantiques. Je vais juste vous lire un extrait. N'est-ce pas ? C'est un dialogue, le Cantique des Cantiques. Ça a été écrit par Salomon, entre Salomon et la femme Sulamite. Et c'est une allégorie, en fait, de l'amour que Christ porte à l'Église. Cantique des Cantiques, chapitre 1, à partir du verset 15, et je vais lire jusqu'à chapitre 2, verset 6. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Salomon qui parle. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. La réponse. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Et vous pouvez lire tout le Cantique des Cantiques comme ça. Et pensez à cette relation que Christ entretient avec l'Église. Cet amour immense qu'il déploie jour après jour pour la chérir et pour la protéger. Dieu a présenté Ève à Adam. Vous savez qu'il y a le premier Adam et le second Adam, Christ étant le second Adam. Le second Adam est marié à l'Église. Un peu plus loin, dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je ne sais pas si, même chez les chrétiens, la notion de une seule chair dans les couples est quelque chose qui est véritablement vécu. N'est-ce pas, certains ont peur que si ils acceptent d'être perdus dans l'autre et l'autre perdu dans l'un, ils vont perdre leur identité, ils vont perdre ce qu'ils sont. Mais en réalité, on ne perd rien à s'unir de cette façon-là. On multiplie. Ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, on fait compte en banque à part, on fait parfois chambre à part, on fait tout à part. Parce que quand même, il faut que je puisse garder un peu de liberté, que je puisse garder un petit jardin secret. Et donc cette première union entre Adam et Ève nous parle de cette union plus grande et spirituelle de Christ avec l'Église. Et cet amour inconditionnel du Créateur avec sa création. Et dans cet amour, il y a quoi? Il y a le don du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Tout ça, c'est déjà préfiguré dès ses premiers moments, n'est-ce pas, lorsqu'il dit je suis très mauvais à retenir les références. Mais... Là, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le don de Christ est déjà présent ici. Et ça, ça fait partie de l'amour de Dieu qui présente l'Église à Christ. Et donc à la croix, Jésus a le flanc percé. Il y a le sang et l'eau qui coulent. Et le sang, c'est le sang de la rédemption, n'est-ce pas? C'est le sang qui va expier les péchés. Et c'est toute l'œuvre que Dieu a préparée, n'est-ce pas, pour reconnecter avec l'homme dès le début. Le sang pour expier le péché et l'eau pour laver les impuretés. Et de la même façon que Dieu a présenté Ève, la chair de ma chair, à Adam, Dieu donne l'Église à Christ. Et lorsque Christ déclare « Je bâtirai mon Église » et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il s'est engagé vis-à-vis d'elle. C'est lui qui la nourrit, c'est lui qui la protège, c'est lui qui la défend de toutes les attaques. L'union entre Christ et l'Église donne à chacun des membres, procure à chacun des membres la même nature spirituelle que celle de Christ. Parce qu'ils deviennent une seule chair. N'est-ce pas? Cette union, elle est absolue. C'est pas Christ à côté, ou Christ pas loin, ou Christ dans ma tête, c'est une fusion parfaite par le Saint-Esprit de la présence de Christ dans l'homme. Nous devenons une seule chair avec Christ et les membres de son Église ne forment qu'une seule entité. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'église de France, il n'y a pas d'église de Belgique, du Cameroun, il n'y a même pas d'église persécutée. Il n'y a pas d'église persécutée, ça n'existe pas en fait. Il y a l'église universelle et les représentations locales, qu'elles soient ici ou ailleurs, où les chrétiens sont persécutés peut-être, mais ça reste des représentations locales de l'Église universelle. Et donc, cette union, cette fusion, ou cette unité, n'est-ce pas, c'est le principe d'unité qui est derrière, en fait, ça. Cette unité, cette fusion, cette union, eh bien, ça fait que partout où vous vous déplacez, partout où je me déplace, partout où le chrétien se déplace, eh bien, Christ se déplace. Là où vous êtes, Christ est présent. Vous avez du mal à le croire, hein ? Et pourtant, c'est ça. Cette union entre Christ et l'homme, eh bien, elle fait que sa présence, elle est partout où l'homme se déplace. Quand vous êtes à votre travail, eh bien c'est Christ qui est à votre travail. Quand vous êtes en famille, c'est Christ. Quand vous êtes dans votre voiture, c'est Christ. Et la question qui est cruciale alors, à ce moment-là, est-ce que je fais partie de l'Église ? Si les choses en sont ainsi, est-ce que je suis, moi, participant de cette Église universelle ? Est-ce que je suis comme lui ? Combien de fois j'ai entendu « Oh oui, mais moi, je ne suis pas Jésus ». Ce n'est pas biblique de dire ça. Évidemment, on n'est pas Jésus en termes de personne, mais l'Esprit de Dieu ne fait qu'un avec nous. Il n'y a pas de séparation possible. Sinon, on vit la schizophrénie. Si on se dédouble, l'Esprit est présent. Nous ne faisons qu'une seule chair avec lui. Est-ce que nous sommes connus de Dieu ? Et est-ce que je connais Dieu? C'est ça la question. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi et le Seigneur Jésus que tu as envoyé. Vous savez que la notion de connaissance dans la Bible, ça a une connotation sexuelle. Et derrière cette connotation, il y a la notion de pénétration. Je m'excuse, hein, mais c'est quand il faut que ça rentre, et ça rentre, c'est quelque chose qui nous remplit entièrement. C'est ça la connaissance. Et c'est pour ça que c'est impossible sans la révélation. Il faut la révélation pour qu'il y ait la connaissance. Un peu plus loin dans l'histoire de la Genèse, c'est juste après le péché, dans Genèse 3, verset 8, ils ont péché. Et là, verset 8, donc, Genèse 3, verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» C'est terrible. C'est terrible. J'imagine, parce que Dieu sait déjà, en fait. Quand il pose la question, il sait déjà. En fait, Adam a disparu. Adam a disparu du radar du jardin d'Éden. Il ne le voit plus. Parce qu'il y a quelque chose, une séparation qui s'est créée entre lui et Dieu. Et là où Dieu voyait Adam tous les jours, il ne le voit plus. Alors il l'appelle. Où es-tu? Où es-tu ce soir? Où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. La peur était une notion inexistante. Peut-être c'est Adam qui a inventé le mot peur. Je ne sais pas. Mais la peur, c'est quelque chose qui n'existait pas. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. N'est-ce pas? Je suis nu. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes avant. Ils sont devenus conscients d'eux. Et je me suis caché. Éden, ça signifie plaisir, délice. Où es-tu, Adam? Nous qui prenions du temps ensemble à nous parler, à nous faire du bien. Où es-tu, Adam? Le péché est venu souiller l'atmosphère d'Éden. Et la noce, qui avait été aussi formidable dans une atmosphère si pure et sainte, se transforme en tragédie. Le lieu dans lequel Dieu, Adam et Ève, prenaient plaisir à se rencontrer et à communier ensemble est désormais terne, éteint. En disant oui au péché, le couple originel s'est vu exclu de la présence de Dieu. N'est-ce pas? Il leur suffisait de ne pas rompre l'alliance qu'ils avaient contractée avec Dieu pour rester dans ce contexte, mais ils ont désobéi. N'est-ce pas, l'apôtre Paul dit quelque chose qui peut-être est relié à ce qui s'est passé dans le jardin, j'en sais rien. Mais il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» C'est-à-dire que le péché, c'est lorsqu'on fait ce que Dieu nous a interdit de faire. Le péché d'Adam et Ève, c'était d'avoir pris cette liberté de penser qu'ils s'appartenaient, qu'ils avaient des droits sur eux-mêmes, qu'ils pouvaient prendre des décisions, même contre Dieu, et que ça n'aurait pas d'incidence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lorsqu'on parle de l'Église locale ou de l'Église universelle, comme j'ai déjà dit, on parle finalement presque de la même chose. Elles ont les mêmes caractéristiques. L'Église locale, c'est la réunion d'hommes et de femmes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous lisez ça dans 1 Corinthiens 12, 13. Je cite ce verset parce qu'il parle, n'est-ce pas, de l'unité. L'unité, c'est dans l'Église. C'est le produit de l'unité qui existe. Écoutez bien, ça va, je ne vous ai pas encore endormi. C'est le produit de l'unité qui existe entre la Trinité et qui... C'est le produit de l'unité de la Trinité manifestée dans les enfants de Dieu. La Trinité manifestée dans les enfants de Dieu. Jean 17. En réalité, vous et moi, si nous appartenons à Christ, eh bien, nous sommes en ce moment même participants à la Trinité, au travers de Christ, bien sûr. On ne rajoute pas un quatrième élément, mais au travers de Christ, nous faisons partie de la Trinité. Jean 17, verset 22. Vous doutez bien que tout ce que Jésus a prié, Dieu l'a exaucé, n'est-ce pas ? Jésus dit... Alors mes yeux me font défaut. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc, cet équilibre qui existe dans la Trinité, eh bien, nous en devenons participants. Pour quelle raison ? Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et là, n'est-ce pas, on a quoi ? On a la mission de l'Église. Que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés. Ça, c'est une constante dans toute la parole de Dieu, même avec le peuple d'Israël. Ce que Dieu voulait, c'était que les nations sachent ce qui se passait avec son peuple d'Israël. Dieu a toujours voulu ça. Et lorsque Dieu s'est fâché contre le peuple, lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils voulaient sévir, qu'est-ce qu'a dit Moïse ? Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que les Égyptiens vont penser, vont dire, si tu agis comme ça contre ton peuple ? Donc, Dieu, lorsqu'il a un peuple, lorsqu'il a son peuple d'Israël, ou lorsque il y a l'Église de Christ, la fonction de ce peuple, c'est toujours de montrer la gloire et la puissance de Dieu. Et aussi, bien sûr, et surtout aujourd'hui, aux ténèbres, que les ténèbres soient témoins du fait que l'Église est effectivement une œuvre de Dieu. Donc l'unité dans l'Église, elle existe parce qu'il y a l'unité de la Trinité et que nous sommes inclus dans cette Trinité. Baptisés dans un seul esprit, un seul corps, abreuvés par un seul esprit. N'est-ce pas ? À nouveau, cette idée d'union, de fusion, dans un seul esprit. Et ce qui est valable pour l'Église universelle, c'est valable pour l'Église locale. L'union et la fusion avec le Saint-Esprit réunit des hommes et des femmes qui viennent de différents horizons, de divers endroits. Et ils sont réunis en un seul corps. Ou une seule chair. Donc, n'est-ce pas, l'image, elle est vraie dans le couple, ils forment une seule chair, et elle est vraie dans l'Église locale, ils forment une seule chair. Et elle est vraie et attestée et fonctionnelle dans l'Église universelle, ils forment une seule chair. Et dans Jean 13, 35, à nouveau, Jésus dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est le signe, n'est-ce pas ? Ce sont les fruits. Il y a donc une Église universelle parfaite qui est dont le chef incontesté, c'est Christ. Il en est la tête, il en est le défenseur. Il y a des églises locales qui manifestent les mêmes caractéristiques. N'est-ce pas ? Je sais, vous pensez que... Non, c'est pas vrai, il y en a qui ne manifestent pas ces caractéristiques. Mais sachez-le, dans le radar de Dieu, il y a des choses qui n'existent pas. Les choses que nous voyons et auxquelles nous réagissons, que nous n'aimons pas ou que nous aimons, finalement, c'est pas si important que ça, mais que Dieu ne voit pas ou que Dieu ne considère pas comme étant existant quand il s'agit de l'Église. Est-ce que c'est clair ? Donc, il y a l'Église universelle et il y a les Églises locales qui sont représentatives de cette Église universelle. Parce que les caractéristiques de cette Église sont les mêmes que celles de l'Église universelle. C'est une habitation de Dieu pour le plaisir et les délices de ceux qui y demeurent. N'est-ce pas ? L'Église locale, c'est une habitation de Dieu pour le plaisir et les délices de ceux qui y demeurent. Vous allez me dire, mais non, c'est nous qui sommes l'habitation de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, quelque chose. Certes, c'est vrai, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais, 1 Corinthiens 3, je crois, il dit, ne savez-vous pas que Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et l'autre, c'est 1 Corinthiens 6. Verset 9. Non, c'est pas ça. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, d'un côté, il parle du temple, l'église locale, et d'un autre côté, il parle du corps comme temple du Saint-Esprit. Donc, d'une certaine manière, c'est linéaire, n'est-ce pas? Ça part de l'individu et ça va à l'Église universelle, ou ça part de l'Église universelle et ça va à l'individu. Les règles, le principe est le même à chaque fois. Et donc, l'Église locale est en quelque sorte une habitation de Dieu. C'est pas vraiment juste de dire ça, parce qu'il n'est pas là comme avec sa présence, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, où dans le tabernacle il y avait la présence de Dieu. Mais cette unité, elle existe au travers de chacun des membres de l'Église. Et en ce sens-là, il habite corporellement dans le groupe, dans le corps, l'Église. Et c'est pour ça qu'une Église, ça ne peut pas être juste des individus chrétiens ensemble. C'est des individus chrétiens ensemble qui vivent parfaitement unis à Christ et entre eux. Et c'est ça qui va déterminer si on est dans une Église ou pas. Habitation de Dieu pour le plaisir et les délices de ceux qui y demeurent. C'est-à-dire que Dieu y parle, Dieu console, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu aime. Dans de tels endroits, Dieu donne des responsabilités à tout le monde. On le verra plus tard, n'est-ce pas ? Nous sommes à l'image de ce qui existait dans l'Ancien Testament, un royaume de sacrificateurs, une sacrificature royale. C'est comme ça que nous sommes nommés et nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. Dieu a donné des hommes, des responsabilités à tout le monde, et Dieu donne aussi des responsabilités à des hommes pour qu'il s'occupe de l'Église locale de la même façon que Christ s'occupe de l'Église universelle. Et les responsabilités dans l'Église locale, ne croyez pas que c'est de la rigolade. Ces responsabilités, elles ont une portée qui est éternelle. C'est-à-dire que celui, et je parle de tout le monde, je ne parle pas que de l'ancien, je parle de chacun. Chacun dans l'Église a des responsabilités devant Dieu qui ont une portée éternelle, c'est-à-dire la façon dont on gère ce que Dieu nous demande de faire, l'école du dimanche, la Sainte Cène, ou je ne sais pas, enfin, quelles que soient les choses qu'on fait, eh bien, ces choses-là ont une portée qui ira jusque dans la vie éternelle. Parce qu'il y a des hommes, il y a des relations, il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas. Ce n'est pas pour mettre la pression. Je pense que ceux qui ont le cœur honnête devant Dieu n'ont pas de soucis à se faire. Mais dès que l'homme est tenté par, la puissance charnelle ou de vivre quelque chose d'autre dans l'Église ou de profiter de l'Église, eh bien, Dieu ne laissera pas ces choses-là juste sans réaction. Et donc, il y a des hommes que Dieu place pour veiller à l'édification du tout, mais chacun est responsable de l'édification des uns et des autres. Donc, s'il devait y avoir une organisation dans une église, et il y a nécessairement une organisation dans une église, elle sera sans doute aussi légère que possible, et elle concerne tout le monde. Voilà. Ça tombe un peu. Bon, je pourrais faire durer, mais je vais m'arrêter là. Je pense que vous êtes fatigués. Il est quelle heure, hein? C'est un peu plus d'une heure.
Si vous voulez être à 9h à la maison,
pour vous. Oui. Voilà. Bon, j'aurais pu vous parler de Jacob et de sa rencontre avec Dieu en deux étapes. N'est-ce pas? Jacob a rencontré Dieu une première fois à Bethel, enfin, à Luz, et il a appelé le lieu où il a rencontré Dieu Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Et ensuite, un peu plus loin, il rencontre de nouveau Dieu dans cet endroit, mais dans un combat, n'est-ce pas? Il y a ce qui n'a pas existé au départ. Dans la première rencontre, elle se fait là maintenant. C'est une union qui se fait entre Jacob et Dieu. Et donc, à ce moment-là, Jacob renomme la maison de Dieu, de maison de Dieu, il l'appelle El Bethel. Il parle du Dieu de la maison de Dieu. N'est-ce pas? Avant, c'était un écrin vide, et maintenant, c'est l'endroit où Dieu est présent. Voilà. Et j'aurais aussi pu vous parler de Moïse. Moïse qui a rencontré Dieu dans le désert, dans un buisson ardent, flamboyant. Et il a parlé avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est approché et Dieu lui a dit « N'approche pas, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes souliers. » Et Moïse a ôté ses souliers. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il est devenu saint lui aussi, parce qu'il était en contact direct avec le lieu sur lequel il se tenait. Ôte tes souliers, c'était enlève cette protection, enlève cette barrière qui existe entre toi et moi, et tu vas toi aussi bénéficier de ma sainteté. Et Moïse est devenu, il y a, n'est-ce pas, toujours une rencontre et une union dans un lieu. C'est l'histoire de l'Église. Le jardin d'Éden, Bethel, El Bethel, le buisson ardent. La première rencontre, elle se fait à l'intérieur de nous. La révélation, elle se fait à l'intérieur de nous. C'est un lieu aussi. Nous sommes un temple du Saint-Esprit. La rencontre se fait là. Voilà. Merci de votre attention. Seigneur, merci pour la merveille de ton Église. Seigneur, sans doute on comprendra toute l'étendue de ton œuvre lorsque nous serons au ciel avec toi. Et on se réjouit de ça. Seigneur, et en attendant, nous voulons vivre la vérité de cette Église dans notre quotidien. Seigneur, déjà la relation avec toi, Seigneur, que tu puisses nous aider les uns les autres à parfaire cette relation. Et Seigneur, aussi la relation dans l'Église locale, la communauté des frères et sœurs. Seigneur, que tu puisses être présent et Seigneur, que ton esprit vienne et domine, Seigneur, sur toute situation qui, que tu n'agrées pas. Et Seigneur, que le malin puisse simplement ne pas interférer dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, tu défends ton Église, tu défends l'Église universelle, et de la même façon, Seigneur, tu nous défends si nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous regardons à toi pour toutes choses, et notamment pour l'Église. En ton nom. Amen.